la musique. Inouï.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon! Vive le soleil! Vive
les oreilles!
Libre!
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Turckheim, en Alsace, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Alors aujourd'hui, nous recevons Evrisser et on va parler du festival Umlaut, qui commence ce soir, je crois, hein, j'en suis sûr, qui commence ce soir et qui dure pendant 3 jours. Alors, Eve, on t'a reçu peut-être dans les années 2010, au début des années 2010, au début de cette décennie. Laurent, vous avez invité avec Joris Rull pour alors, le duo Fenêtre Ovale, je crois. Hein.
Ouais.
C'était ça.
On a un duo Joris Rull et on l'a développé avec Karl Negelen, qui nous a composé.
Oui.
Démarrage difficile. Il nous a composé une pièce et ça a donné le groupe Fenêtre Ovale qui, en plus, continue de s'agrandir à chaque
fois. Bah oui, c'est une question que j'avais plus tard, mais voilà, on ne va pas refaire...
Non, on garde pour plus tard.
On garde pour plus tard, non mais c'est pas ça, ce que je voulais dire, on ne va pas refaire tes études musicales, tout ça, il ne s'agit pas de ça aujourd'hui,
il s'agit du
festival. Mais quand même pour que les auditeurs savent qui parle, qui leur parle, j'aimerais savoir, bon tu es pianiste, et dans quelle formation tu joues actuellement? Quelles sont tes formations qui sont encore en vie ou...
Oui, les choses les plus actuelles, je me fais une joie de parler du Red Desert Orchestra, qui est mon projet orchestre. Je déteste le mot projet aussi, mais il sort tout le temps de la bouche. J'ai monté un nouvel orchestre. J'avais le White Desert Orchestra qui continue, qui jouera à la Philharmonie en juin. Petite page de pub, tu vois, je fais quand même ma pub. Et le Red Desert Orchestra a fait une rencontre avec le Kalajula Band de Naini Diabaté. Et on a fait un spectacle qui s'appelle Kogo Baba Sigi, où on est 16 sur scène avec 7 musiciennes instrumentistes, dont une chanteuse, Naini Diabaté, du Mali, de Bamako. Mm-hmm. Et le Red Desert Orchestra, c'est un orchestre européen de nouveau, avec d'autres personnes. Il y a deux musiciens, musiciennes qui sont issus du White Desert Orchestra, qui sont Fanny Lasfargue et Antonin Triwang. Ouais. Sinon, dans l'orchestre, il y a Manu Scarpa, Sakina Abdou, Tatiana Paris, Grégoire Tircio, Nils Ostendorf, Mathias Müller, Antonin, Fanny,
bon,
comme
Morgane,
j'ai dit.
Non.
Morgane, elle n'est pas dans celui-là, elle était dans le Yellow Desert Orchestra Experience de l'année dernière, qui était un one-shot pendant le festival Umlaut. On avait fait une grosse fête avec plein de musiciens. Cette année, c'est pas pendant le festival et puis c'est pas le même orchestre. Et on a fait aussi un orchestre... si tu veux, c'est deux orchestres avec le Red Desert Orchestra, un avec le Kalajula Band de Naini Diabaté, c'est Kogo Baba Sigi, c'était en décembre, on a créé ça à Fricolor et à plein de trucs et on continue de tourner, là on revient de Grenoble et tout, et on joue à Reims en avril, j'insiste parce que c'est vraiment assez rare de pouvoir réunir tous ces gens, et l'autre on l'a créé à son d'hiver en février, le Red Desert Orchestra invite Umaru Bambara, Ophélia et Mélissa Yé, donc qui jouent des instruments africains, donc je voulais pas que ce soit des blancs-becs qui les jouent. Donc on a invité ces trois musiciens français qui jouent des instruments traditionnels, plutôt burkinabés, eux. Donc voilà, c'est un orchestre à deux têtes, dont la souche européenne est la même. Voilà. C'est vraiment... Je peux parler vraiment de ça, parce que ça m'a pris beaucoup de temps.
Moi, si tu le permets, je parlerai d'un trio que j'ai vu, que j'ai vraiment adoré. Toutes mes félicitations, parce que j'ai vraiment pris une claque. C'est encore...
Ah oui, tu as vu ce groupe à son d'hiver.
C'était super, bravo.
Récemment.
Ah oui,
non, mais ça c'est toujours d'actualité. Le trio, oui, en plus on va tourner en mois d'avril là, à l'Ajmi et puis au Périscope. Et c'est un super beau trio, mais comme il est plus ancien, j'ai cité les nouvelles choses, le trio avec Édouard Perrault et Benjamin Duboc, c'est la musique qui nous... Voilà, c'est un beau triangle et ça fait bientôt 7-8 ans qu'on joue. Et on se met dans le corps et on joue... c'est vraiment, pour moi, l'ensemble qui parle le plus sans mots.
Oui.
Vraiment, c'est vraiment la discussion des corps.
Super bien réussi. Donc, plutôt musique, carrément musique improvisée. Et puis, pour qu'on situe dans quel... quel genre de musique tu évolues.
Ben ouais, je rectifie juste, c'est que maintenant je suis de plus en plus compositrice et, ouais, ouais. Et l'improvisation, je l'utilise pour la composition. Ah, ouais. Et c'est complètement improvisé avec le trio, sauf qu'il y a une écriture de groupe au bout des quelques années oui, où finalement on a fait des choix. Et dans l'orchestre, c'est très écrit, même si c'est une écriture orale, hein, il n'y a rien d'écrit sur papier. Mais il y a pas mal de compositions, puisque la limite était tellement fine que j'ai finalement sauté de l'autre côté plus récemment. Bon. Donc voilà, c'est l'actualité.
Tiens, tu as une autre formation dont on parlera en fin d'émission, puisqu'elle est programmée au festival Umlaut. Alors, nous avons reçu le 28 octobre, j'ai révisé ce matin, au lieu de dormir, le 28 octobre 2011, nous avons reçu Pierre-Antoine Badarou et Sébastien Bélia, à l'invitation de Laurent Pascal, qui fait la technique aujourd'hui. Eh bien, il nous avait expliqué comment s'est créé le collectif Umlaut, mais peut-être tu peux, parce que ça fait quand même 8 ans, tu peux nous rafraîchir la mémoire.
Ouais, ça fait... le collectif, il existe depuis plus.
Oui, oui, oui.
Il existe depuis 10-11 ans presque. Ouais. 10 ans, je pense. Je pense que ça fait 10 ans. Ou 9, pardon. Je me posais cette question. À l'origine, collectif Umlaut a été créé sous l'impulsion de Joel Grip, musicien suédois qui vit aujourd'hui à Berlin. Donc il existe aussi un Umlaut Berlin, d'ailleurs. Il y a plusieurs têtes à Umlaut. Et donc, il était à Paris. Il a rencontré des musiciens dont des gens avec qui il jouait au CNSM dans la classe de jazz. Donc, c'était très conservatoire, tout ça. Mais lui, il n'était pas trop. Donc, en fait, il a commencé à bien faire bouger des choses. C'est un certain nombre de jeunes musiciens là, et musiciennes avec qui on avait envie de faire plein de trucs un peu en dehors de l'aspect scolaire. Il y a plein de choses qui s'organisaient déjà naturellement. Pierre-Antoine et Antonin faisaient de la musique et sortaient leurs petits CD de leur côté. Moi, je faisais un peu de la contrebande à Strasbourg avec Yuko Oshima, avec des concerts dans les cafés. Non, je disais la contrebande parce qu'on essayait tous de faire des choses avec nos petites mains. Et Yoel avait une impulsion il avait déjà son label Umlaut Records et il a dit maintenant je veux l'ouvrir, je veux pas tenir tout ça tout seul. Nous, on était super chaud. Et donc, c'était un peu le papa du label et on est tous rentrés dedans avec Sébastien Bélia, Joris Rull, Pierre-Antoine Badarou, moi-même et donc Yoel. Et donc, il était question que Karl nous rejoigne, mais ça a été possible que 2-3 ans après.
D'accord.
Karl Nijlen, ouais. Voilà, puisqu'il était moins connu des autres copains et on avait dit qu'on commençait avec les gens qui se connaissent le mieux. Ouais. Et aujourd'hui, il y a Amaryllis Billet en plus qui est arrivée l'année dernière. Voilà, parce que donc moi, c'était carrément compliqué de participer à un collectif qui n'avait pas d'autres femmes que moi. Ah c'est-à-dire oui, qu'ils travaillent avec une femme et je ne travaille pas avec une femme. Ouais. Et donc, moi qui défends beaucoup ce genre de problématiques, voilà, j'ai vraiment appuyé ça au sein du groupe. Mais ils l'ont bien accueilli. Donc voilà, on est maintenant 7.
Ouais. Peut-être on peut en dire un mot. Oui, vous êtes 7 dans le collectif maintenant de cette problématique-là, parce que c'est vrai qu'on l'a abordé un petit peu et nous, on fait gaffe à inviter des femmes aussi maintenant.
Mais vous êtes obligé de faire gaffe, ouais.
C'est pas qu'on est obligé, mais on sait. Parce que des invités nous ont parlé de ces problèmes. Et nous, on invite qui on veut, en fait. Hein, tu vois ce que je veux dire.
Mais quand tu invites qui tu veux, est-ce que tu te retrouves avec plus d'hommes que de femmes?
Ah, bah, carrément.
Ouais, donc c'est des habitudes.
Je sais pas.
On a des habitudes. Non, mais on a des.
Nous, on s'est posé des questions par rapport à ça. Donc
il y a pas mal d'études sociologiques là-dessus.
C'est vrai que tu vois, il y a pas mal de formations avec que des hommes, quoi. Enfin, des grands ensembles.
Mais c'est une habitude. C'est comme il y a plus d'hommes qui jouent au foot. Hein. C'est des habitudes.
Ouais.
On a.
Sauf
en
classe de musique, il y a pas mal de.
Oui, alors on sait qu'au conservatoire, en bonne étudiante, il y a beaucoup de filles, mais elles disparaissent dans le milieu du travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles inscrites au foot aussi, mais c'est la société qui crée des habitudes assez genrées et pour s'en défaire. Alors là, c'est compliqué, quoi. Il y a très peu de gens qui acceptent qu'il faille forcer un peu le truc. Ouais. Et qui se dit ça va se faire dans le temps, mais je pense qu'en ce moment c'est très la mode parce que je pense que ça, on a constaté que ça avait absolument pas évolué dans certains domaines, voire baissé. Mais enfin voilà, j'ai vu des chiffres complètement incroyables. Genre en musique actuelle, on est à 4% de femmes instrumentistes ou des trucs comme ça. Il y a les associations comme HF dans les régions comme Rhône-Alpes ou Île-de-France qui recensent les chiffres de ça et qui Il y a plein de gens qui se battent pour les inégalités dans le domaine de la culture et de l'art. Et du coup, les discussions sont intéressantes parce qu'on voit que sans petit coup de rein, il ne se passe pas grand-chose. Donc en fait, c'est quand même pas vraiment la solution de se dire ça va finir par changer.
Non, il faut
un peu se secouer, je crois.
Il y a un groupement de gens qui regroupent des phrases sur Internet. T'as pas vu ce truc-là? Tu connais pas?
Ça s'appelle Paytanote.
Oui, voilà.
Ouais, donc c'est un peu le... C'est peut-être le mini... Les mini conséquences de MeToo qui a vraiment été un tournant dans l'histoire du féminisme, je pense. Et Paytanote, ça existe. Il y a aussi d'autres choses. Moi, ce qui me choque le plus... Moi, comme je suis aussi... Je suis assez grande gueule, je pense que... j'ai souffert de sexisme et je souffre de sexisme, mais plus à un autre endroit, c'est pas forcément des phrases ou des trucs comme ça, parce que finalement, je crois que je suis même passée au-dessus, mais quand j'étais plus jeune, je jouais à l'ONG parce que j'ai fait ça, mais c'est pas... Je pourrais recenser les autres, mais j'en ai même dans ma vie à moi. Je crois que j'arrivais dans une salle avec l'ONG, comme j'étais la seule femme, on me donnait systématiquement... Déjà, on me demandait... on me demandait toutes les questions liées à l'administration, genre vous voulez qu'on mette les musiciens où et tout, voilà. Et où après on me proposait une loge de chanteuse, où on me demandait on pensait toujours que j'étais danseuse ou chanteuse.
Ah oui, d'accord.
Et j'aurais dit, mais vous avez programmé un groupe avec du piano, vous n'avez pas vu. Donc c'était toujours dans les coins un petit peu. Trad, c'était plus difficile. Mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est les habitudes qu'on a de jouer avec toujours des personnes de sa classe sociale, de sa couleur, de sa tranche, de son genre, de ses goûts, alors qu'en fait, quand même, on est amené à douter quand on fait un métier artistique, mais l'humain, il vient de quelque chose de... se bouger et se poser des questions et douter d'une manière humaine, c'est toujours plus compliqué, puisqu'on va se remettre en question artistiquement, mais avec un groupe non mixé de personnes. Et alors là, je me dis que des blancs super forts, mâles, d'un certain âge, fassent une musique qui déboîte sa race. J'ai envie de presque dire qu'aujourd'hui, c'est pas un mystère et que c'est pas vraiment un exploit. Et que du coup, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que ça donne quand on a moins de facilité et qu'on n'a pas eu tous ces avantages à évoluer dans un cadre où on a eu la chance de faire le conservatoire et tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait aussi si on... Enfin voilà, je sais pas, j'ai pas de réponse, mais on a tous nos zones de confort, nos zones de risque. Et forcément, moi aussi, mais j'essaye toujours de me dire que si à un moment c'est confortable, je sais pas, mais artistiquement et culturellement, ça doit pas forcément mener. Et forcément, les zones de confort, on en trouve tous. Je pense aussi de temps en temps stagner dans des zones où je suis confortable et sans doute dans ma vie, blablabla. Mais. Ce qui m'embête, c'est quand les gens qui font des trucs super les font que entre personnes exactement de même classe sociale, de même couleur et de même genre et tout ça. Et parce que là, je me dis que ça bouge plus. Et puis l'écart se creuse pour les filles, pour attraper derrière, on devient super comparé pour les non blancs aussi. Pour je sais pas. C'est des petites choses qu'on se dit beaucoup entre filles et entre non-blancs. Et...
Bon, il fallait que ce fût dit. Et alors, concernant les zones de confort, on en a, nous aussi, à la radio, hein, tu sais. Et puis, luttons contre ça et posons-nous des questions, même si on n'a pas les réponses, comme tu dis. Hein, mais au moins, posons-nous ces questions-là. Revenons à Umlaut, si tu veux bien. Je voulais savoir... comment fonctionne le collectif? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il y a un directeur artistique ou est-ce que tout est mis en commun?
C'est 7 blancs qui ont fait conservatoire.
Dont une femme.
Et donc 2 femmes.
2 femmes maintenant, oui, c'est vrai.
Et on est 7, mais je dis pas de conneries, c'est avec l'administrateur ou pas 7? Attends, Amaryllis, moi, Pierre-Antoine, Seb, Carl, Joris. Ouais, c'est 7 avec l'administrateur.
Ouais.
Donc on est 6 directeurs artistiques. Directeur artistique, directrice artistique. On se nomme jamais comme ça, mais on programme artistiquement le label. Donc Thomas est plus administrateur et fait pas partie de la direction artistique. Donc on peut proposer au sein du label des disques qu'on aimerait sortir, sachant qu'on n'a aucun argent pour le faire.
Oui.
Donc soit on décide de prendre sur notre argent de poche pour payer le disque des copains, mais c'est rarement le cas. Enfin, moi, si, on l'a tous fait. On s'est tous pas mal ruinés comme ça. Mais soit maintenant, enfin, moi je l'ai fait ça aussi, de dire aux copains, ben, si vous payez votre disque, on peut au moins vous faire bénéficier du distributeur et de la presse, et des envois presse. Voilà, c'est... Mais en gros, c'était surtout pour nous sortir nos disques et tourner des pages artistiques plus vite, sans attendre un schéma, un système. Bah, comme tous les labels indépendants et petits labels, hein, c'est pour pas attendre les... Enfin, pour ces musiques, c'est souvent on attend toute une vie pour sortir sur des labels qui sortent pas nos musiques.
C'est sûr.
Et enfin voilà, l'envie de fabriquer. Il y a différents différentes manières de s'intéresser aux disques dans le collectif. Ça, je trouve ça assez intéressant. Il y a bah, Joris, il sort Toile et Toile, le solo qu'il va faire dimanche. Il le fait à la main. Donc, il a, son père est relieur et donc tout est collé à la main. Il y a les petites étoiles avec de la feuille d'or.
Wow.
C'est en série limitée. Et lui, il est très, très méticuleux sur la fabrication aussi de sa musique. Hein. Il a développé toute une. J'en profite pour parler du coup d'un des concerts.
Ouais, vas-y. Ouais.
De dimanche. Donc, il a développé tout un travail sur les multiphoniques. Mais hyper difficile, mais lui, il est vraiment doué là-dessus. On avait commencé ce boulot avec Carl Eslen. Il peut jouer vraiment beaucoup de notes en même temps et les développer, les tenir et les faire muter, ce qui est super compliqué à la clarinette. Mais en plus, il est avec l'objet dans quelque chose de... Bon, ben voilà, j'en fais pas beaucoup, mais je l'ai fait soigner. Parce que le disque... Enfin, ça, on l'a tous admis dans le collectif, hein, le disque... Franchement, on les vend au concert, mais sinon ça vaut plus rien. Donc, ce serait cool d'aller plus vers le vinyle ou vers.
On a quelques. Quoi.
Ouais. Donc bon, pour l'instant, nous on fait encore des CD. Hein. C'est assez marrant et aussi des vinyles. Pierre-Antoine lui dit qu'il kiffait les disques depuis qu'il était gamin, que c'était son rêve de s'occuper de disques. Moi, j'avoue que j'adore l'idée d'avoir un label et de pouvoir promouvoir. J'ai promu que deux disques qui sont pas de où je suis pas dessus, avec Donatien Michel Danzac d'Apergis et La Soustraction des Fleurs, mais ça me disait bien. Le problème, c'est que ça prend du temps administrativement, mais l'envie de d'aider des groupes qu'on adore, quoi, les coups de cœur, de pouvoir avoir quelque chose de pouvoir mettre des envies, quoi, et les envies des autres, et de pouvoir les mettre dans notre famille, parce que un label, c'est une famille, quoi. On est côte à côte dans le catalogue. Parce que je dis aux copains de La Soustraction, qu'est-ce qui vous intéresse, on n'a pas d'argent. Ils ont dit non, mais c'est d'être à côté d'autres. Voilà, c'est pour moi, c'est une famille et c'est un collectif, quoi, un label. Et donc Sébastien, lui, il aime bien être indépendant dans sa création aussi, enfin dans les créations. Ça, c'est un terme qu'on m'a dit aussi qu'il fallait chasser, mais j'ai pas encore remplacé. Mais c'est truc. Carl, il est incroyable parce qu'il fait partie de ces compositeurs ultra indépendants. Il a créé aussi une sorte de mini maison d'édition. Sur Umlaut, il y a Umlaut Edition, Umlaut Scores.
Ah oui,
et on peut mettre toutes les partitions qu'on veut à vendre entre 1 et 10 euros de tous les gens qui écrivent de la musique. On est tous compositeurs dans Umlaut quasiment. Et surtout, Carl, il ne voulait pas forcément être dans les mains d'un éditeur. Donc, ces partitions sont aussi disponibles sur le site. Et en plus, on peut avoir les enregistrements avec les disques. Enfin, du coup, il y a vraiment cette dimension de questionner et l'impro et la compo et de pouvoir mettre ça en miroir sur le site, en regard.
Donc, moi, alors, je propose qu'on écoute un extrait du disque dont tu as parlé, de Joris Rühl. Et puis après, peut-être, on parlera du festival.
Ouais.
Ok.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres en compagnie de Ève Risser, et nous parlons du festival Umlaut. Alors on aura compris en écoutant Joris Ruhl ce dont tu parlais tout à l'heure, la polyphonie ou multiphonie ?
Multiphonique.
Parce que les auditeurs, c'est le fait de faire avec un seul instrument plusieurs
multi et phonique sons, je pense.
Ouais, faire plusieurs sons avec un seul.
Plusieurs sons à la fois, donc sur un instrument monodique, c'est carrément difficile.
Ouais, c'est
monodique qui fait qu'un son normalement, là, et si t'en fais plusieurs, c'est. Je peux pas le faire. Non, mais tu vois ça, mais en même temps. Je sais pas comment dire. C'est comme un yodel, mais qui ferait tous les sons en même temps.
Je pense que c'était très clair à notre démonstration. Et donc là, dans l'extrait, on entendait bien ça. Parlons un peu du festival. Donc, depuis combien de temps existe-t-il
On n'a pas fait exactement tous les ans, mais je crois que c'est la 7e ou 8e édition.
Ah,
je sais même pas. On en a fait pas mal, hein.
Et comment il évolue ? Parce qu'il me semble, en réécoutant l'émission d'il y a 8 ans, 9 ans, il me semble que ça a été sur une semaine à l'atelier Polonceau.
On a peut-être déjà fait ça une semaine, mais on a dû vite s'apercevoir que ce n'était pas possible. Donc on est plutôt sur 3-4 jours depuis quelques années. Ouais. Il y en avait un l'année dernière, au Lavoir aussi. Donc 3 jours, ça nous va bien, vu qu'on est 7 au total. Là, on a même des bénévoles avec nous. Donc merci les bénévoles au passage. Ouais. Donc on va pouvoir voir plus gros. Mais c'est vrai que plus on est, plus il faut nourrir de bouche aussi. Enfin, c'est un peu le truc qui se mord la queue.
En réécoutant, vous disiez, alors est-ce que c'est le cas que vous faisiez tout, le bar, machin, la bouffe et tout ? Tu parles de bouffe ?
Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs, mais... Joris, il s'est coupé le doigt hier en faisant la sauce tomate et du coup, il ne sait même pas s'il peut jouer demain. Donc je commence à voir les limites de ce système. Franchement. Non, mais oui, comme tous les festivals indépendants, on a eu une mini subvention de la ville de Paris, je crois. Elle est toute mini et donc on essaie de s'en sortir avec les entrées. Sinon, donc voilà, le lavoir moderne s'occupe du bar. Nous, on vend des soupes et puis on s'occupe. De la bouffe et de louer du backline, de faire... Pardon, j'étais pas trop devant le micro, là.
Ah, bon, ça va.
On s'en occupe. Mais en plus, cette année, on joue pas mal dans le festival. Parce que l'année dernière, on avait invité les copains de Umlaut Berlin.
Ah, d'accord. Ouais.
Et cette année, du coup, on avait envie de jouer un peu plus.
Ouais.
Mais du coup, on est quand même bien sur le pont. Et moi, j'ai pu m'échapper pour l'émission, donc c'est carrément royal.
Alors, comment beaucoup de collectifs organisent leur festival ? Ça correspond à quelle nécessité ? Est-ce que c'est un moment fort ? Est-ce que ça ressoude les membres d'un collectif ? Est-ce que c'est une exposition plus intense de vos activités ?
C'est une super question, parce que c'est hyper central. Nous, finalement, c'est le seul truc qu'on fait vraiment en commun.
Ouais.
Donc on s'est aperçu de ça que comme chacun maintenant, en vieillissant, on a chacun nos groupes, on devient de plus en plus nos activités individuelles ou même collectives, mais qui ne sont pas forcément avec nous sept ensemble, nous six ensemble, évidemment, puisque l'utopie de ce collectif, c'est quand même d'être ultra différent et de faire des musiques ultra différentes, mais continuer de travailler ensemble. Parce qu'il y a des collectifs où il y a beaucoup plus d'unité musicale. Là, on dit qu'on veut favoriser les musiques créatives, mais quand même, on va quand même du swing à du jazz rock à des machins. La musique contemporaine, il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, on peut s'imaginer que ça vient aussi humainement de différences. Donc, de travailler ensemble, c'est quand même un sacré... challenge, et on y croit, et ça fait des années qu'on tient comme ça, avec des esthétiques qui balayent pas mal, et on s'est aperçu que sur le festival, là on faisait quelque chose de vraiment commun, parce que là tout le monde aide tout le monde, et il n'y a pas de jugement sur les esthétiques de chacun, on les soutient, et d'ailleurs on va jusqu'à participer, parce que donc, c'est une initiative de Umlaut Big Band et de Pierre-Antoine Badaroud d'inviter Alexander von Schlippenbach. Mais on va jouer avec le collectif Umlaut et Alexander. Et pareil, Grand Bazar invite Umlaut. Et l'année dernière, il y avait aussi des choses qui se croisent. Donc, il y a un moment donné, on joue tous le jeu aussi de jouer les esthétiques des autres. Sébastien et Antonin, l'année dernière, ont joué une pièce de Karl Egelen, alors qu'ils font jamais cette musique trop d'habitude. Mais on a aussi un groupe avec tous les membres d'Umlaut. On a fait un groupe qui s'appelle Sillon. On a fait des expériences comme ça pendant un an, et puis donc il y a aussi des gens à l'IRCAM qui font des petites études sur notre groupe, justement, qui est assez dispersé en termes, pas dispersé, c'est pas du tout le bon mot, qui est assez varié en termes d'idées artistiques et du coup qui viennent nous observer aussi comment on se parle et comment on est, parce que c'est un peu le bordel.
C'est ça un peu la question que je voulais faussement te poser, parce que je crois savoir la réponse pour la pratiquer aussi ici. Mm-hmm. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de changer d'esthétique? Parce que là, alors j'ai même pas annoncé le premier morceau, c'est le groupe polonais Lotto qu'on a écouté dans l'émission. Tu vois, cette esthétique-là, assez répétitive, assez rock. Dans le genre rock, il y aura Joujou aussi. Il y a, comme tu dis, quelque chose qui s'apparente à du big band swing. Enfin, ça part dans tous les sens.
Bah, comme notre catalogue hein, aussi. Non, par contre, ça, je pense que c'est important dans un festival. Parce que déjà.
Mais pourquoi? Parce qu'on pourrait.
Non, mais je pense que là, on a vu que dans les festivals, un festival, c'est offrir une fête aussi à des gens, et on s'est aperçu que quand on a tous une part de musique assez intellectuelle dans nos pratiques. Par contre, parfois on sait que dans une fête, à un moment donné, il faut pas faire que cette musique, parce que là on la partage, et là tout le monde a été capable, je pense, et je pense que dans la vie de chacun, on a toutes des musiques qui nous sont plus intellectuelles et d'autres qui nous sont plus pour danser ou pour le corps ou pour et ce qui est chouette, c'est que dans tous les membres d'Umlaut, dans la programmation, il y a ces parts là par exemple, Sébastien, qui a des groupes où il y a une musique plus ténue, plus calme, bah c'est lui qui a programmé Lotto.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'il, donc, Sébastien vit en Pologne et il connaît ce groupe. Et voilà, c'est un grand musicien qui connaît plein de choses, donc qui est sensible à plein de choses. Donc, on est tous sensibles à plein d'esthétiques, et en même temps que nos pratiques qui sont en plus différentes. Donc en fait, ça brasse très large. Et bah moi, je trouve ça super qu'on n'y comprenne rien, parce que je pense que ça, pour le coup, c'est un truc qu'on voit moins souvent.
Alors après,
des mélanges. Après, ça reste bien. Je sais pas si j'invite ma voisine, elle va me dire qu'on est tous perchés. Alors que moi, je vais trouver ça super varié, tu vois.
Ouais. Après, nous, dans l'émission, par exemple, on invite des trucs carrément différents, qui vont effectivement du rock à la musique contemporaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une... Parce que vous aurez des auditeurs qui vont apprécier plein de trucs différents.
Ouais, bah, ou pas, mais des ouais, trucs mais et pas d'autres trucs. Mais si, nous, notre ligne de... Bah, c'est ce que j'ai dit avant, là, c'est musique créative. On veut défendre des musiques créatives.
Oui, puis...
Notre seul truc en commun. Si on pense que, par exemple... Et puis des gens qui ne jouent pas souvent. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on trouve créatifs, mais qu'on voit beaucoup jouer à Paris. Et du coup, on ne va pas forcément les faire jouer en premier. On essaye de se faire chier à trouver des gens. Alors, il y en a qui fouinent sur Internet comme des fous et qui trouvent des trucs. Moi, ça va être, par exemple... si je peux parler de moi. En tournée, j'ai parfois des coups de cœur de trucs que je découvre. Et donc, je pense à eux. Bah, et eux, c'est pareil. Mais il y en a qui cherchent sur Internet. Moi, je sais moins faire ça. Mais avoir des coups de cœur en live dans d'autres pays. Et après... Et Joujou, c'est à Marie-Lise qui les connaît de Lyon. Mais peut-être on reparle de l'invitation de notre
C'est ça, moi, la question.
De notre résident, oui, Alexander von Stippenbach.
Parce que c'est un genre, c'est pas un genre, c'est carrément un fil rouge. Il sera question de lui pendant les 3 jours. Oui. Et j'aimerais savoir, déjà, je pense que c'est la première fois que vous faites ça. Et pour quelle raison?
Bah, l'année dernière, c'était le fil rouge, c'était le Umlaut Berlin.
Ah oui,
ils étaient chaque soir et toute la semaine.
Et
c'était une belle proposition de Pierre-Antoine qui a dit qu'il aimerait faire à moitié une résidence du Umlaut Big Band et Alexander von Schlippenbach sur la semaine. Ce qui permettait aussi de louer le lavoir moderne pour la semaine et travailler tous les jours avec Alexander. Donc avec le collectif, on a travaillé avec Alexander lundi et mardi. Et ensuite, il a travaillé avec le Big Band et il fera aussi un solo. Et c'est intéressant parce que le Big Band a pu du coup jouer sa musique et enregistrer hier soir et ce soir. Nous, on joue avec lui demain. Dimanche, il fait un solo. Et voilà. Et ça nous a permis de l'avoir toute la semaine. L'année dernière, on répétait toute la semaine avec le Umlaut Berlin. Et là, on répétait toute la semaine avec Alexander von Schlippenbach.
Génial.
Qui est très âgé maintenant. C'est une grande chance de l'avoir avec nous.
Ben, je propose qu'on écoute Alexander von Stippenbach solo. C'est enregistré à Berlin le 2 juillet 2015.
Thank you.
Alors, on vient d'écouter Alexander von Schlippenbach en solo. Alors, tu parlais du fait qu'il soit très âgé, mais tu sais qu'il jouera dimanche 7 en solo, donc le jour même de ses 81 ans. Et je voudrais savoir si vous avez
Arrête,
fait...
c'est le jour même.
Je te jure.
Mais peut-être Pierre-Antoine, il le sait.
Et vous avez fait exprès ou pas, non? Tu savais pas?
Putain, non, moi je suis pas au courant.
Bah, faut lui faire un petit cadeau, hein. Faut faire un gâteau avec 81 bougies.
Non, mais peut-être que Pierre-Antoine est au courant.
Ouais, j'arrivais pas à savoir que c'est...
Vraiment, c'est pas les 80, sinon on aurait été un peu chargé d'une grosse mission, mais...
81, ouais, j'ai vu ça en...
Faudra le fêter, en tout cas, faudra marquer le coup.
Ah ouais.
Bon. C'est beau, ça, ah, dis donc.
Si c'est un hasard, c'est marrant.
C'est un honneur.
Si c'est un hasard, c'est marrant. Alors, c'est une... Alexander von Schlippenbach, figure des musiques improvisées avec le Globe Unity Orchestra, le duo avec Svenak Johansson, trio avec Peter Brotzmann. Et justement, Coax ont invité Peter Brotzmann lors de son hiver, Anne Bening cette semaine à Sony Protest. Et en quoi consiste la dette des générations de musique auxquelles vous appartenez envers cette génération d'improvisateurs européens? Et je pense à l'Instant Composer Pool et
Ouais, nous, on ne serait pas là sans eux, quoi.
Mais en quoi?
C'est l'héritage de la musique jazz blanche d'Europe. Après, moi, j'ai écouté plus Akita Kaze, la femme d'Alexander von Schlippenbach. Oui. Et Pierre-Antoine connaît extrêmement bien son travail, moi un peu moins bien. Quoique, c'est lui qui joue dans Monk's Casino, non?
Je ne sais plus. Je ne sais pas.
C'est le projet sur Monk où il joue pendant des heures et des heures et des heures tous les morceaux de Monk là avec les...
Ouais. Ma question c'était de savoir au niveau organisationnel, tu vois, l'Instant Composer Pool, je vois, Anne Bening et tout ça, étaient les premiers par exemple à faire des disques autoproduits.
Ouais, moi je connais pas bien le sujet Alexander von Schlippenbach, mais de toute façon cette génération ils étaient ouais, extrêmement bien organisés, mais je connais pas bien, mince. En plus, j'ai pas bonne mémoire, parce que l'autre jour, on était au resto avec lui et il nous a raconté plein de trucs.
Ah ben, mince.
Et comme je suis méga fatiguée, je sais plus.
Ah ben dommage. Et donc, pour toi, en tant que pianiste, parce que voilà, quand même...
Ouais, on a joué avec lui, il est quand même phénoménal. Il a une super technique de base au piano. Il a vraiment moi, ce que je n'ai perçu, je trouve que c'est un mec qui a vraiment le langage jazz et qui a le langage d'impro à l'européenne. Donc, il peut passer du ternaire au binaire. Il parle de ce truc de prendre sa chance ou louper sa chance, mais en tout cas, jouer que par décision et par écoute des autres. Il est hyper instinctif et en même temps il dit qu'il décide tout, et en même temps on le voit, c'est un animal quand il joue et moins quand il parle, du coup c'est assez drôle.
Tu as parlé tout à l'heure de la collaboration qu'il y a eu cette semaine en amont, donc avant les concerts qui vont commencer ce soir. Je voudrais savoir quelle a été la nature du travail. Est-ce qu'il compose et
on ne savait pas trop. Je crois que ça lui a été laissé très libre parce qu'il avait pas mal de taf sur les arrangements du big band et sur son solo. Alors, ça a été assez informel. On a fait des sessions avec lui. On a joué avec lui. Donc, moi, soit j'ai observé, soit j'ai joué un peu de flûte. Donc, les autres ont joué plus avec lui, mais j'ai pu être à l'extérieur avec Karl et écouter. En tout cas, je trouve ça hyper instinctif, sa manière de jouer. On a fait quelques petits exercices pour avoir quelque chose à te dire, mais il est plus dans un truc de jouage, quoi. Et il l'a dit, moi, les silences, pas trop. C'est pas trop mon truc. Il aime bien jouer, il joue au kilomètre. Mais c'est super péjoratif de dire au kilomètre parce qu'il fait des ruptures, il a des propositions. C'est quand même assez composé dans sa tête, ses choix. Et on a fait un 4-mains et on va faire un 4-mains aussi samedi, à un moment donné. On a monté plusieurs setups, c'est-à-dire configurations. On a plus essayé différentes formations que fait des compositions particulières. Oui, donc on a improvisé, mais on s'est dit, lui à un moment donné il a dit j'aimerais quand même avoir les instruments les plus classiques et les moins forts ensemble. Et ça c'est dès qu'il y a basse batterie ça tourne un peu plus au jazz, et donc on a segmenté le concert qu'on va faire en plusieurs sous-groupes.
C'est des trames, une trame quoi, il y a une trame.
Et ouais, et c'est ça, il y a même un petit quatre mains qu'on fait, et à jouer avec lui, je me suis aperçue à quel point il a cette expérience de l'empathie en impro, donc signifier à l'autre qu'on est en train de l'écouter, et en même temps faire son truc à soi, et trouver l'endroit qui est l'endroit d'intersection entre deux personnes qui n'ont jamais joué ensemble. Mmh. Et je l'ai trouvé tellement rapide là-dessus, et tellement... Enfin, on a l'impression qu'il a joué, mais... tellement de musique que c'est marrant comment une mélodie qui lui, ou un truc qui va jouer dans un pattern, c'est répéter un segment, ouais. Un truc qui va répéter, on a l'impression qu'en dessous il y a une couche épaisse de 1000 autres mélodies en dessous.
Ah oui, d'accord.
C'est pas du tout je joue une phrase qui me sort des doigts.
Ouais.
C'est une musique qui est comme s'il y avait une bibliothèque en dessous de lui, à lui. Enfin, moi, ça me donne ce genre de... Tellement, c'est pas anodin quand on a son âge et qu'on joue ce qu'il joue.
Ah oui, bah...
et qu'il le joue depuis tellement longtemps.
Mmh.
Pour moi, c'est très épais, ces propositions. Et c'est vraiment pas de la foutaise. Enfin, à 81 ans, jouer cette musique, il n'y a rien qui est juste du... Vas-y, on s'amuse et on lâche prise.
Ouais, ouais.
C'est tellement de... C'est un magasin, quoi, de... emmagasiner des choses.
Hmm. Alors...
Et surtout en impro, c'est assez rare de sentir ça. Parce que
ouais.
C'est quand même...
Alors, la première lecture, vraiment la première belle lecture que j'ai faite du programme, je me suis dit, tiens, ils font la même chose les deux jours de suite, mais tu vas nous expliquer qu'il y a bien effectivement une différence entre le Umlaut Big Band avec Alexander von Schlittenbach.
Ouais, c'est compliqué.
Et le collectif Umlaut, non, je crois pas que ce soit.
Donc, merci Pierre-Antoine d'avoir donné ce nom à ton Big Band, parce que depuis, on est obligé d'expliquer que le collectif Umlaut est né d'ailleurs d'abord. Et ouais. Avant le Umlaut Big Band. Mais comme Pierre-Antoine, il kiffe le label et il avait envie de faire un Big Band, il s'est dit que ça ferait partie du collectif.
Ah oui.
Ça ferait parler aussi du collectif. Sauf que comme ils font une musique plus populaire, le truc est passé largement devant en termes de notoriété. Et tu te balades en Europe et les mecs te disent « Ah, mais je t'ai pas vu dans Umlaut !» Il fait « Alors non, bon, je vais t'expliquer. » Collectif Umlaut, c'est...
C'est ce dont tu parles.
C'est les six membres fondateurs, tout ça. Et il se trouve que, quand même, dans le Umlaut Big Band, la section rythmique, non, au moins basse-batterie, et Pierre-Antoine au saxophone alto, sont dans Umlaut et sont les piliers du Umlaut Big Band, qui réunit des musiciens donc qui ne sont pas du collectif Umlaut, excepté ces trois-là. Donc ça fait quand même la moitié, ce qui est pas mal. Mais comme ils sont 14, ça dépasse largement.
Ouais.
Et musicalement aussi, c'est une musique... Ils jouent pas mal des musiques swing des années 20 et après.
On va écouter un extrait. Alors, je ne sais plus ce que c'est l'extrait. J'ai noté ou pas. The King of Bungle Bat. Tu vois ce que c'est ou pas?
Non, pas du tout. Là, ils ont fait pas mal de répertoires là, à ce jour. Ils en ont vraiment beaucoup.
Et bah, ils reprennent des standards d'un jazzman, mais je ne sais plus le nom. On ira voir.
Ah, c'est marqué sur le disque. Hein,
et bah, on ira voir. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, radio-libertaire.net. Nous sommes avec Eve Risser et nous parlons du festival Umlaut. Umlaut, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Je ne t'ai pas demandé tout à l'heure.
Eh bien, Umlaut, c'est... Alors, tout le monde sait qu'on l'utilise pour parler des deux points qu'on met en Allemagne, là, sur les trémas. Enfin, c'est le tréma.
Ouais.
Et dans d'autres pays aussi. Je viens d'apprendre que c'est en train de disparaître en Allemagne, hein, pour les jeunes. Petit à petit, ils enlèvent les points.
Ouais.
Mais Yoel avait trouvé ce nom parce que ça veut aussi dire le changement de son. C'est tous les petits trucs qu'on met sur les lettres pour en changer le son.
D'accord,
donc,
ouais.
Il avait sous-titré le label Transformation of Sound.
Ah, mais oui.
Umlaut Records, Transformation of Sound, c'est le sous-titre du label.
D'accord. Alors, on va parler de... Allez, il faut revenir à la programmation, là.
Ouais. Ignace Chic. Ce soir.
Tu peux nous le présenter? Ah oui, c'est ce soir.
Platiniste en solo ce soir. Eh ben, il a collaboré avec plein de groupes intéressants. Il est très présent sur la scène berlinoise. Et il a créé des festivals aussi. À l'époque, j'étais venue écouter. Il organise pas mal de trucs. Un musicien assez hyperactif. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un d'encyclopédique dans ma manière de me souvenir des trucs. Donc, s'il faut faire des CV, là, je vais plutôt parler de ce qui est écrit sur le programme. Turntabliste et compositeur de renommée internationale, Ignace Chic vit et travaille à Berlin, où il joint ses forces à la nouvelle vague berlinoise et au courant de musique en temps réel. En solo, son système de jeu lui permet de toucher à divers styles de musique expérimentale, contemporaine, du réductionnisme extrême à la musique ambiante, industrielle ou concrète. Il a cofondé différents ensembles, dont Perle Onyx, Phosphor, Snake Figures, et collaboré avec de nombreux artistes de stature internationale. Et il a fait des résidences en France aussi. Il a vraiment une approche du tourne-disque.
Oui.
À la française, super, super intéressante et bon, il a une grosse maîtrise de ça, il travaille avec deux platines. Je l'ai vu pas mal en concert, mais il y a vraiment des années, je me réjouis beaucoup là, je sais pas trop ce qu'il a fait dernièrement, mais ça fait longtemps qu'on voulait l'inviter, on trouvait jamais la bonne date, donc je crois que ça fait 3 ans qu'on a essayé de l'inviter sur le festival Umlaut, c'est là. Ça se fait.
Bon, enfin, pour pouvoir le voir. On enchaînera, on va l'écouter, mais on enchaînera avec Joujou et je voulais savoir... Quel rapport donc vous avez avec eux? J'imagine que tu...
Donc ça c'était programmé. Joujou a été programmé plus par. On était tous hyper contents, mais c'est Amaryllis Billet qui les connaît le mieux,
ouais.
Qui sont plutôt sur la scène lyonnaise, je pense, puisqu'elle vient plutôt de cette scène-là. Et c'est un peu des foufous voix batterie, homme-femme, guitare, batterie, multi-instrumentiste. C'est assez déchaîné et. On voulait aussi mettre des groupes comme Loto. Chaque jour, on voulait un truc un petit peu plus...
Péchu,
un
dire.
Peu plus foufou. Un foufou, peu plus foufou, allez.
Ben, on écoute Ignace Chic et le duo Joujou qu'on avait reçu il y a quelques années également.
Thank you.
Voilà, c'était Ignaz Schick et à l'instant même Joujou. Peux-tu nous expliquer, Eve, ce qu'est le spat sonore ?
Alors le spat, c'est à la base un tuyau, un son. Ouais. Le spat, c'est vraiment l'onopantobé, je pense que du son qui sort de la fabrication. Alors il y a peut-être des phrases qui sont mieux que ce que je vais expliquer.
Mais je crois que c'était.
C'est une installation monumentale formant un dôme de pavillon englobant le public. Les spats sont des acousmoniums acoustiques tentaculaires, d'immenses orgues à bouche, des amplificateurs spatialisateurs de sons produits par la bouche, une corde ou une membrane. Les spats sont également des cordes, des tubas, des saxophones, des violons, des guitares et des percussions. Avec dorénavant plus de 15 ans d'existence, l'instrumentarium du Spad Sonore a acquis une expérience et une stabilité qui ont permis la commande d'œuvres nouvelles. Et donc, il y aura des œuvres ce soir, demain soir, de Frédéric Patard, Carnegielen, mais aussi de Joris Rull, qui est dans le collectif Umlaut, et Roméo Montero. Et donc, ils essayent de mettre leur installation autour des gens. Donc, en fait, l'idée de base, c'est Nicolas Chedmaille qui avait inventé ça, de mettre un long tuyau à un instrument à embouchure et lui mettre un pavillon très loin. Ouais. Donc ça permet de spatialiser, mais de manière mécanique complètement, du son. Et ils ont développé ça en les accrochant dans les airs, à des fils et tout. Ouais. Ils peuvent placer le public en dessous, ce qui fait que c'est hyper... pas spatialisé, mais localisé aussi, ouais, comme, ouais, son. C'est-à-dire que si moi j'ai un pavillon au-dessus de la tête et un à 3 mètres, évidemment je vais entendre beaucoup plus souvent celui qui est au-dessus de ma tête, mais ça ne joue pas en même temps. Et la personne que j'entends au-dessous de ma tête, elle est en face de moi, par exemple, puisqu'il y a des tuyaux. Et donc on est dans un univers, comme c'est assez animal, et puis on entend vraiment les bruits de bouche, hein, parce que donc, c'est des, c'est des musiciens improvisateurs qui ont des techniques aussi pour faire des sons bien chelous. Du coup, c'est une forêt de sons. Enfin, c'est assez, ouais, c'est assez poétique comme truc. Parfois moins poétique, mais ça dépend. Mais moi, je le trouve très poétique et assez, c'est assez rare ces installs. Ouais. C'est quand même, ça leur met un temps fou à installer.
Mais alors, oui, c'est ça. Mais moi, je me suis demandé, est-ce que c'est ce dispositif justement, ne se prête pas à toutes les salles, et je voulais savoir si ça a joué. Dans le fait que vous jouiez au lavoir moderne
parisien. Bah ouais, parce qu'on essaye toujours de mettre une installation. Enfin, ça fait 2 ans, on a essayé aussi les autres fois, mais qui est quelque chose de l'ordre des arts visuels, un tout, ouais, petit peu. Donc l'année dernière, il y avait un orgue qu'a fabriqué un Allemand avec du bois.
Ah, je m'en souviens.
Et c'était un truc incroyable. Les orgues en bois qui jouaient.
Avec des tuyaux.
Des tuyaux, c'est très 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 beau. Ouais. Et on trouvait ça tellement beau et ça mettait tellement de temps parce qu'ils vissent truc par truc que moi j'avais demandé est-ce qu'ils le laissent, et j'avais joué avec un orchestre de 18 personnes sur la même scène. Du coup, on s'était mis dans un coin pour laisser l'orgue et du coup on n'avait même plus de lumière, je crois. On a joué dans le noir. c'est très important pour... Mais cette année, donc, eux, ils vont s'enlever après leur concert pour laisser la place aux autres sets. Mais parce que ça prend effectivement pas mal de salles et la salle du lavoir, elle est très belle et elle est très grande. C'est-à-dire que la scène, elle a presque 2 parties. Il y a du parquet, il y a ces belles poutres et ce vieux mur qui décrépite. Ouais, mais je ne suis franchement pas une championne de la langue française et ni des autres. Donc, c'est, je laisse parler mes petites accroches verbales.
Non, mais c'est pas grave.
Donc, là, oui, c'est effectivement pour ce lieu... On a bien sûr pensé au lavoir.
Ouais, ouais. Alors, moi, je propose d'écouter, je ne sais pas si on aura le temps de tout écouter. Bon, on verra, peut-être qu'on coupera. Mais il y a un morceau qui s'appelle « Des Madeleines dans la galaxie ». Alors évidemment, ce sera l'intérêt dont tu parlais, la spatialisation ne sera pas très audible à la radio, mais on aura une idée de
ce que c'est. Il y aura peut-être une stéréo, pas mal.
Peut-être, ouais. C'était un court extrait, hein, mais il nous reste peu de temps et j'ai encore quelques questions à poser à Eve Risseur, notre invitée du jour. Je voudrais, Eve, que tu nous parles de ce qu'interpréteront Amaryllis Billet, membre de Umlaut, donc, et Anna Hjelving.
Anna Hjelving, qui est danoise et qui fait ce duo avec Amaryllis pour jouer la pièce de Karl, qui a été en fait déjà créée.
Voilà.
En mars 2018 avec une autre violoniste, Anna. Ce n'est pas la première fois que cette pièce est jouée, mais la première fois que ce duo la joue. Et donc c'est une pièce de Karl Nejlén, qui est un compositeur, enfin il est membre de Umlaut et on crée pas mal de pièces de lui avec Joris. Je peux pas en dire beaucoup. Il y a quatre mouvements constitués de matière en perpétuelle transformation. C'est vrai que c'est un travail assez récurrent chez Karl de transformer des matières. Et je suis assez sensible à ça. Parce qu'en improvisation, j'essaye d'obtenir aussi ce genre de trucs. Et on les a travaillés lui-même avec lui. Et je parle hyper mal, je suis fatiguée. Dans Fenêtre Ovale, le groupe avec Joris et Karl, on a travaillé des compositions. Mais avant de travailler les compositions, on travaillait l'improvisation. Et en fait, ces transformations de matière sont vraiment un truc qu'on a en commun dans nos musiques avec Karl, avec Joris et avec moi. Et du coup, maintenant aussi avec Amaryllis et Thomas Gouban, qui fait partie de Fenêtre Ovale. Donc, dans ce duo, elles explorent la musique de Karl. Ce que je peux dire, c'est que Karl va aussi extrapoler ce travail que fait Joris sur les multiphoniques dont on a parlé avant. Et le faire jouer avec l'Oncem, l'orchestre qui joue à Saint-Méry là, en juin. Parce que Joris a travaillé les multiphoniques beaucoup, mais il les a aussi développés au sein de Fenêtre Ovale avec Karl Nejlén. Et si tu veux, c'est comme s'il y avait quelque chose d'hyper cohérent là, entre les transformations de matière, du son, chez ces musiciens-là. Quoi. C'est peut-être la... le côté du collectif Umlaut qui travaille ce genre de truc, tu vois. Je te disais, il y en a trois qui sont dans Umlaut Big Band qui font aussi plein d'autres trucs, et nous on aurait comme souche ce travail autour de la matière sonore et plein d'autres trucs.
Alors, tu parlais de Joris, hein, qui était dans Fenêtre Ovale et Karl également. J'ai vu que le solo qu'il va faire est qualifié de concert-spectacle.
Oui, j'ai oublié de préciser, il a pas mal bossé avec Manon sur la lumière. Donc, il y a tout un travail avec de la lumière dans le spectacle de Joris. Ouais. Et je vais le découvrir avec toi parce qu'il ne nous l'a jamais montré. Et c'est la première, il sort son disque là et on est content parce que ça fait longtemps qu'il souhaitait aboutir ça. Donc c'est un bon moment. Voilà, il s'est coupé un doigt hier, mais il va jouer, je pense.
ça ira. Bon, je propose qu'on écoute ce dont on parlait précédemment, le duo. Alors, c'est pas Amaryllis Billet, comme tu l'expliquais, mais c'est Sophie Torsbro, qui joue avec Anna Yalving. Alors, on va écouter un extrait de AA Duo, puisque c'est le nom de cette œuvre.
Du coup, ça nous permet...
Ouais, c'est très bien. Eh ben oui, c'est très bien. Tu vas nous parler Eve, de, parce que tu vas jouer plusieurs fois, hein, si j'ai bien compris, avec le Umlaut collectif.
Oui.
Collectif Umlaut, et tu vas jouer.
Ça nous a perturbés.
Ouais. Tu vas jouer ton projet. Ton tu vas jouer ton groupe, tu vas jouer ton groupe, Grand Bazar, ton truc, Grand Bazar,
oui.
Ouais, bah, c'est le cas de le dire. Alors.
Dimanche, je vais jouer dans un de mes groupes. On a ce duo avec Antonin Triwang depuis pas mal de temps, puis plein d'années. Et l'idée, c'est qu'on passe à la moulinette, ce petit mot qu'on dit dans nos textes, les quatre compositeurs, Carla Bley, Ligeti, Bach et Aphex Twin, mais ça s'est vachement extrapolé vers plein d'autres trucs. Enfin, à la base, on voulait aussi faire des compos et explorer n'importe quel compositeur. Ça s'est réduit à quatre compositeurs à la période où on a participé à l'ONJ et on nous a proposé de jouer ce truc en concert soutenu par l'ONJ. Donc on a un petit peu à un moment labellisé le truc, on l'a un peu plus resserré vers quatre compositeurs, mais c'est large. Et là on invite Umlaut, le collectif, donc on invite les copains du collectif duquel je fais partie, et Antonin joue aussi dans le Umlaut Big Band, donc enfin ouais. Bon, c'est vraiment c'est dans la constellation Umlaut, quelqu'un de très proche. Et et donc l'idée, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, hein. Pierre-Antoine, il a sorti une fois un petit album de synthétiseur où il joue du hornet, Coleman, et donc en fait on va arranger un peu les petites conneries qu'on fait d'habitude pour les copains, donc il y aura des surprises en fait. Mmh. On va essayer de faire des trucs, on essaye en général de faire des choses hyper sérieuses, des arrangements chouettes, ou rien, et puis des trucs complètement...
ouais.
Comme Branquignol.
Le grand bazar. Parce que moi, j'ai vu un extrait vidéo, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, j'ai rien compris, en fait. Ils passent des disques, ils font quoi?
T'as vu quoi?
Je sais plus, mais un extrait vidéo.
Sur la vidéo, sur la vidéo qui est sur le site, bah, moi, je fais de la flûte et du clavecin. Lui, il fait de la clarinette. Après, on fait piano, saxophone. Et il y a. Ah oui, il y a aussi des passages où on.
Y a pas des
parfois, parfois on passe des vinyles donnant des saucisses au public, on joue à Aphex Twin en chaussures de ski, on fait les enfants, mais ça évolue au fil du temps.
C'est un grand bazar. Quoi. Ouais, ouais.
Et en fait, on fait le truc in situ, donc à chaque spectacle, on remonte tout plein d'idées. Donc à chaque fois, c'est plein de boulot et on va être en résidence à l'aquarium l'année prochaine, comme le Umlaut Big Band, et Samuel Achache et Jeanne Cornel nous programment en janvier 2019. Pour faire du in situ à l'aquarium aussi, à la cartoucherie, et justement utiliser les lieux, les gens. Et de plus en plus, on va travailler avec des invités parce qu'on tourne en rond à deux. Ouais. Et ouais, parce que ça nous permet de développer tout ça. Et donc, il y a pas mal de petites surprises dimanche soir.
Ah, super, super. Et alors, tu as un peu anticipé ce qui sera mon avant-dernière question. Quelques mots de tes nouvelles idées de concerts à venir?
Eh bien, en fait, pendant un an là, j'ai pondu un nouveau quintet qui s'appelle L'Ensemble Ensemble, avec Thomas Gouban, Marie-Gvin Brunvoll, une Norvégienne chanteuse, Kim Mir, un guitariste norvégien, Georges Dimitriou, un violoniste roumain mais qui vit à Hollande. J'ai fait deux nouveaux solos et deux nouveaux grands orchestres. Du coup, là, en fait, j'ai des commandes de composition jusqu'à de maintenant à 2021, mais pas beaucoup, mais quelques-unes, et je vais y aller tranquille, parce que je suis complètement rincée, mais c'est assez drôle, parce que là, j'ai des commandes pour des trucs, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller, mais genre pour le Big Band de la radio de Francfort ou pour l'ONJ, des trucs assez gros, mais sinon, voilà, il y a deux nouveaux solos, un de plus avec des compositions et des morceaux de jazz, repris, des standards, et un autre où je fais de la musique mécanique sur piano droit, un peu de trance. Et puis les deux orchestres dont j'ai parlé au début, et on continue avec Grand Bazar et le trio, et il y a ce quintet L'Ensemble Ensemble qui fait une musique complètement composée mais en improvisation totale, sans rien dire, avec des gens. Donc on fait des genres de chansons mais complètement instinctif, parce que ça, c'est un groupe canapé, parce que je suis complètement en zone de confort avec des musiciens blancs de ma classe sociale qui ont fait le conservatoire, mais dans d'autres pays quand même, qui viennent de d'autres pays, donc on mélange nos influences. Et je me sens très bien dans ce groupe-là. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses déjà.
Et puis je te rappelle que tu as la cuisine à faire.
Aussi. Mais je crois qu'ils ont bien commencé sans moi là.
Ouais, donc, bah c'était bien que tu
sois là. Je vais les rejoindre.
C'était bien que tu sois là, si je comprends bien.
Ouais, je suis ravie. Et désolée s'il a manqué d'infos à des certains moments. Venez voir en live.
Donc c'est ce soir, demain soir et dimanche.
Venez.
Et peut-être c'est le moment de rappeler
tout. Dans ce super quartier là du 18e, franchement, je suis retournée, j'y habitais avant, mais c'est trop bien.
Super
quoi.
Lieu aussi. Hein. Et bah, justement, peut-être il faut donner l'adresse du.
Le Lavoir Moderne, c'est rue Léon, dans le 18e, donc près du parc Léon, du square Léon, là. Métro Château-Rouge, c'est ce qu'il y a de plus près.
Ouais.
Ça marche aussi à. Métro Marca des Poissonniers.
Alors, et puis, qu'est-ce que. Parce que là, on a fait.
Les infos, donc c'est 14 euros si vous arrivez pile poil, 12 euros si vous réservez par internet, 10 euros pour les tarifs réduits. Ouais. Les concerts commencent à 20h, je crois, ou 20h, ouais, et ouverture des portes une demi-heure avant, donc ça ouvre à 19h30 ce soir et demain. Par contre, c'est plutôt dimanche, ouverture des portes à 17h30. On laisse un battement d'une demi-heure, parce qu'aussi on fait des bonnes soupes et des bons dalles pour vendre, et par contre on vous précise que on n'acceptera que le cash, parce qu'on a des petites galères, donc prenez du cash, et sachant que c'est à Barbès le plus près, je crois. Donc voilà, les machines sont pas trop près du lavoir moderne. Et qu'est-ce que je peux dire ? Il y aura des disques du catalogue Umlaut à vendre et des bonnes bières du lavoir moderne.
Peut-être qu'il faut nous rappeler jour par jour la
programmation. On l'a fait dans le désordre. Ce soir, vous aurez donc pour ouvrir la soirée Ignaz Schick qui va faire les platines. Ensuite, le Umlaut Big Band qui invite Alexander von Schlippenbach et joue sa musique et enregistre en même temps. Donc, et ils laisseront place à l'Auto, ce trio polonais, assez rock et expérimental, plutôt rock. Mmh. Enfin, on s'en fout des étiquettes. Voilà, c'est trois sets pour ce soir. Demain, ça commencera avec le Spat Sonore, donc ces tentacules de pavillon qui nous englobe. Collectif Umlaut qui joue la musique de Alex von Schlippenbach. Alexander von Schlippenbach, donc cette fois-ci avec les gens du collectif. Ça finit par Joujou, le duo qu'on a évoqué, là, qu'on a écouté.
Punk rock, ouais.
Punk rock, batterie, voix et tout ça. Et dimanche, donc Joris Rull solo et duo Amaryllis Billet et Anna Jolving se succéderont. Donc ça fera une demi-heure chacun en premier set. Et suivra le deuxième set d'Alexander von Schlippenbach solo pour ses 81 ans, le disais-tu. Et ça finira par le Grand Bazar qui invite Umlaut, comme on en parlait à l'instant. C'est-à-dire qu'on invite les cinq musiciens, les autres musiciens du collectif.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eve, d'être venue malgré peut-être toute cette fatigue, cette intensité due à la préparation du festival.
De nous inviter.
La semaine prochaine, nous diffuserons l'émission que nous avons enregistrée la semaine dernière avec les trois copains de Hippie Diktat.
Yes.
J'ai juste une annonce. Ça, moi aussi, je suis fatigué là. Alors, mercredi 10 avril à 19h30, c'est à Publico, débat autour du livre L'Algérie au cœur. En avril 56, le Front de Libération Nationale se structure à Renault-Billancourt à l'initiative des ouvriers spécialisés algériens. Puis, mai 68, les événements dans lesquels les travailleurs immigrés jouent un rôle prépondérant. Dans les années 70, ces mêmes travailleurs se battent pour leurs droits et leurs salaires. L'ouvrage L'Algérie au cœur, édité par Sileps en 2014, nous éclaire sur le vécu de ces ouvriers tiraillés entre des conditions de travail éreintantes et une ferveur militante inébranlable. Nous nous intéresserons, au cours de cette soirée, à l'héritage que ces hommes et ces femmes nous laissent face à un système d'exploitation chaque jour de plus en plus violent. Mercredi 10 à 19h30 à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Eh bien, il me reste à remercier Laurent qui faisait la technique aujourd'hui.
Merci.
Laurent Pascal, Laurent Jarige. Et puis à la semaine prochaine. Salut.
Merci.